André Lumbumba au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. L'héritage provoque souvent des conflits dans beaucoup de familles dans la société congolaise, avec parfois des cas dirigés automatiques du testament d'un défunt par les membres de sa famille, une situation qui préjudicie souvent les veuves et orphelins et est aussi à la base de l'aggravation du phénomène enfant de la rue dans certaines villes, alors que la loi prévoit toutes les procédures nécessaires en cette matière. Que proposez-vous pour faire respecter la loi et résoudre des cas de conflits liés à l'héritage? Nous en parlons dans ce studio avec Maître Omar Kigalou, juriste et conseiller juridique au sein de l'ONG Justice pour tous et militant défenseur de droits de l'enfant, des droits de l'homme ainsi que de l'enfant. Titi Mputu, Nadine Foulak, Jean-Claude Nessiala sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Meiji sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Vous pouvez également nous joindre au 081-890-43-39, 081-890-43-39 pour intervenir en direct. Il est arrivé plusieurs fois dans votre milieu que vous puissiez assister à un cas lié à l'héritage. Cela provoque des fois des dislocations au sein des familles, des enfants qui sont abandonnés, de veuves qui sont jetées sur la rue. Tout cela est abordé dans Parole aux auditeurs. Il y a la loi qui prévoit ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes, mais aussi c'est un problème, c'est là aussi lié au contexte culturel et social de chaque peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette question? Nous sommes contents de recevoir dans ce studio Maître Omar Kigalou. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Meiji.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Parole aux auditeurs. Vous qui êtes juriste, vous militez aussi pour le droit des enfants. D'une manière brève, qu'est-ce que la loi dit en ce qui concerne l'héritage?
Merci beaucoup Pierrot et la Meiji. D'avant tout, je voudrais m'acquitter c'est un devoir agréable qui consiste à vous remercier pour cette opportunité heureuse et vous remercier aussi pour cette marque de confiance que vous avez portée à nous. Mmh. Alors, de façon générale, selon le Code de la famille, la loi de 87, à son article 755, une personne, lorsqu'elle décède, sa succession, c'est-à-dire l'ensemble de biens qu'il laisse, ouvre, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle le partage. Alors, la succession, n'est-ce pas, ou l'héritage est l'ensemble de biens, des droits et obligation qu'un découle, comme on l'appelle en droit, laisse. Toujours selon la loi, cette succession ou cet héritage peut être testamentaire, c'est-à-dire les découles ou les défunts laissent un testament ou ils lèguent le bien à des personnes qu'ils trouvent le mieux placées. Mm-hmm. Ça peut aussi être non testamentaire, c'est-à-dire les découles ou les défunts meurent sans laisser un testament. Alors lorsqu'il n'y a pas un testament, l'article 758 du Code de la famille congolais précise qu'il existe 5 catégories d'héritiers. Mmh. La première catégorie, ce sont des enfants nés dans les mariages, et ces nés hors mariage, mais affiliés du vivant de leur père, c'est-à-dire reconnus, ainsi que les enfants adoptés. Mmh. La deuxième catégorie est composée, n'est-ce pas, du conjoint survivant, le père, la mère et le frère et sœur du défunt qu'on appelle en droit les découyous. La troisième catégorie est composée des oncles et tantes paternelles ou maternelles du défunt. Mm-hmm. Et lorsque ces trois premières catégories font défaut, l'article 762 donne la possibilité à tout parent ou tout autre allié de venir à la succession. Et cependant, en cas de déshérence successorale, c'est-à-dire lorsque les trois, quatre premières catégories font défaut, c'est à l'État qui revient la succession. Voilà de façon panoramique ce qu'on peut attendre par héritage et qui a droit à l'héritage laissé par un défunt.
Et avant qu'on puisse avoir cette loi dans la société congolaise, comment on résolvait ces problèmes de l'héritage? Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de mettre ensemble la loi et les cultures de peuple. Comment cela s'est passé-t-il avant, bien sûr, qu'on ait cette loi?
Merci beaucoup, Pierrot. Cette question est intéressante. La démarche du juriste n'a de sens que si on procède à une approche diachronique. Dans les temps, il y avait ce qu'on appelait de procès des palabres, c'est-à-dire lorsqu'une personne décédait, le vieux du village ou le chef du clan faisait appel à tout le monde. Et toute personne qui était sous ton toit avait droit à l'héritage. Voilà pourquoi cette expérience a même poussé les gens à dire aujourd'hui, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Nous nous sommes rendus compte que les arrangements sociaux au niveau du clan de la famille s'arrangent mieux que le procès au niveau de la justice. C'est comme ça que ça s'est passé. Les chefs du clan invitaient tout le monde, ont cité devant tout le monde le bien que le défunt a laissé, et toutes les femmes reconnues par le clan ou reconnues par la communauté qui vivaient avec lui avaient aussi droit à l'héritage. C'est comme ça que ça s'est passé et les problèmes ne se posaient pas trop.
Voilà, on va revenir à vous, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se posent au sein des familles. Il y en a qui ne veulent même pas reconnaître les testaments, s'il existe, et quand bien même il n'y a pas des testaments. Aujourd'hui, dans la compréhension au niveau socio-culturel, c'est plus les frères du défunt qui disent, voilà, c'est nous qui avons droit à ces biens, et les enfants et la femme sont relégués en seconde position. Voilà autant de conflits, c'est qu'on doit faire pour résoudre tout cela. Nous avons maître Adrien qui nous appelle de Kananga au Kasaï occidental, Franck est à Vienne en Autriche et maître Christian à Kisangani, 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot et la neige.
Et nous dégageons ensemble les pistes et solutions pour faire face aux problèmes des conflits liés à l'héritage, quand bien même la loi a déterminé ce qui doit être fait. Quel est votre point de vue, maître Adrien?
Oui, merci, Pierrot. Il faut d'abord signifier que, c'est comme l'invité venait de le dire, mais il faut spécifier que, selon les biens du dépouillus, conformément au code de la famille, les héritiers de la première catégorie ont droit à eux seuls à 3/4 de ces biens, et puis le 1/4 là doit revenir aux héritiers de la deuxième catégorie. Et puis deuxièmement, il faut rappeler aussi que si aujourd'hui nous vivons trop de confusion, des troubles tels que vous venez de l'invoquer, il y a deux personnes auxquelles qui font toujours, donc qui sont à la base de tous ces désordres là. Il y a le défunt lui-même. Parce qu'en mourant, avant ces derniers jours, il rédige les testaments. Et je vous assure que la plupart des testaments font beaucoup de confusion parce que le dépouillus reprend seulement ses enfants. Hein? Donc, il ne fait pas allusion aux enfants nés hors mariage et puis à un filier de son vivant. Et aussi, il met de côté les enfants adoptifs. Et ce qui fait que lorsque la succession sera ouverte, il faut maintenant que ces enfants-là se présentent aussi, que non, voilà, nous sommes ces enfants, et ces enfants biologiques posent toujours problème. Et puis, deuxièmement, donc, le deuxième acteur qui crée des problèmes, ce sont les pères et les frères et les mères, donc, du dépouillus. Eux pensent que le bien leur appartient, donc, lorsque leur fils meurt, il faut qu'ils puissent automatiquement récupérer tous ces biens-là et puis jeter les enfants dans la rue. Comme solution, je pense qu'il faut commencer par sensibiliser cette vieille loi-là. Donc la mettre à la portée de tout le monde. Parce que je me dis, en tant qu'avocat, il y a un sérieux problème. La plupart des familles ne maîtrisent pas qu'il existe un code de la famille qui règle toutes ces questions-là. Là, c'est de un. De deux, c'est comme, donc, après la sensibilisation, il faut procéder aussi à la vulgarisation. Chercher à multiplier la loi pour la remettre vraiment, même gratuitement, hein, à des familles, donc mettre ça à la disposition des officiers de l'état civil pour qu'à chaque occasion, ils procèdent aussi à faire, la même campagne. Là, parce que ici, à Kananga, nous avons des cas, très pratiques, allant dans le sens où je venais de vous signifier ces choses-là. Donc c'est pour vous dire que tant que l'État congolais, tant que ceux-là qui ont le pouvoir de faire ce que le code de la famille leur charge, ce sera vraiment difficile nous allons vivre toujours des confusions en confusions.
Merci
voilà
beaucoup.
Ce que je pouvais dire.
Merci beaucoup, maître Adrien. Vous avez dit la responsabilité, d'abord, c'est le défunt lui-même, le problème souvent aussi de confusion en ce qui concerne le testament. Il y a les parents du défunt. Moi, j'utilise les termes défunt. Vous, les juristes, vous utilisez des cuius, comme vous l'appelez, pour permettre aux auditeurs de comprendre le défunt. Et ses parents, ses frères et ses sœurs qui pensent qu'ils sont d'office le premier héritier, qui est ses enfants et sa femme. Mais pour résoudre tout cela, selon vous, maître Adrien, il faut d'abord sensibiliser les gens sur l'existence du code de la famille qui résout tous ces problèmes, et aussi vulgariser les codes de la famille. Je crois qu'il n'est pas assez vulgarisé, les codes de la famille. Et vous pensez que cela peut aider à résoudre le problème? Merci beaucoup, maître Adrien. Franck, vous nous appelez de Vienne en Autriche. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, l'invité. Bonjour à tous les compatriotes congolais avec qui nous échangeons sur vos ondes.
Voilà, nous dégageons ensemble les pistes des solutions pour faire face aux conflits qui naissent de l'héritage. Qu'est-ce qui peut être fait, Franck?
Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est un problème qui a trait à... C'est une réalité qui est vécue dans beaucoup de sociétés du monde. Même dans le monde occidental, c'est parmi les dossiers super sensibles et délicats qui occasionnent des conflits interminables entre les membres d'une même famille. Seulement chez nous, pas seulement à RDC, je crois qu'on peut dire dans le tiers-monde, cette question est vécue d'une autre manière, d'une manière assez exceptionnelle, à cause de la logique de la solidarité familiale ou des normes traditionnelles qui pensent que non, les frères ou la sœur de tel a plus de droits par rapport à l'enfant. Et je crois que là, si on doit au-delà des aspects juridiques, il y a aussi des aspects sociologiques qu'il faut encore revoir. Donc moi, j'ai toujours dit ou je me dis qu'il faut continuer à dénoncer la mauvaise foi, la méchanceté de certains membres de famille qui pensent s'accaparer de certains biens sans vouloir respecter l'intention du propriétaire. Et personnellement, je me pose des questions. De quel droit un frère peut penser aller s'accaparer de biens de son aîné qui est mort, qui a laissé des enfants et une veuve? Et qui a plus de droits? Ce sont d'abord des enfants de X messieurs, des enfants de X mamans, ou ce sont des membres de famille? Et là, je crois que la crise qui nous sévit dans le tiers monde est aussi un des facteurs qui explique cette méchanceté de certains membres de famille. Et comme solution, il faut qu'il y ait une légalisation très claire en cette matière, et cette légalisation doit être vulgarisée. Parce que parfois, quand il y a des conflits comme ça, on va se présenter chez les juges, mais quand on voit la manière dont les procès est tranché, ça donne encore à penser. Et comme conséquence, nous avons des réponses, des phénomènes chaînés, des conflits interminables.
Voilà, merci beaucoup Franck. Vous pensez, comme c'est un problème qui touche aussi aux aspects sociologiques dans la société, il faudrait aujourd'hui d'ailleurs penser à une légalisation claire et la vulgariser pour faire face à cela. Mais le problème aussi touche à la conscience, quand on y mélange la crise, la pauvreté, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas de moyens, et quand il entend que son père, son frère est mort, il a laissé une voiture quelque part, il pense que c'est ça à l'occasion de pouvoir résoudre ces problèmes. Il faut beaucoup de sensibilisation. Merci beaucoup. Maître Christian, vous êtes à Kisangani. Dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour.
Et nous dégageons ensemble les pistes et solutions pour faire face aux problèmes de conflits liés à l'héritage. Votre contribution.
Oui, je remercie d'abord mes confrères qui ont essayé de donner leur point de vue. Je les salue d'ailleurs. Alors, ce que je considère, c'est que nous sommes d'abord dans une société où la culture testamentaire n'est pas mise en place. Certes, la loi essaye de dire quelque chose là-dessus, mais est-ce que la population a la volonté de rédiger les testaments? Les responsables des familles ne rédigent pas régulièrement les testaments, par peur peut-être d'être assassinés, soit de subir un complot, voilà. C'est là que nous pensons que la plupart des conflits qui naissent dans les familles après la mort d'un responsable de famille, c'est souvent dans les cas des
les successions sans testament, les successions qu'on appelle ab intestat. Alors, c'est dans ces cas-là que les différentes catégories des héritiers entrent en conflit, disant que voilà, les Dekouyous n'ont pas rédigé les testaments. Moi, il me faut avoir tel avantage, et ça crée des conflits interminables.
Mm-hmm.
J'avais dit que lorsque les conflits résultent d'un testament qui a été bien établi, ou que ce testament soit attaqué pour faux ou pour fraude, ça c'est notre cas. Mais pour le testament, la succession ab intestat, je pensais que là, les familles devaient se diriger devant les tribunaux pour demander le partage. Mais dans les cas où ils n'arrivent pas à s'entendre, quand bien même que le tribunal finira par le partage, l'avenir de la famille, la cohésion familiale est déjà ébranlée.
Mm-hmm.
Et là, c'est un problème sérieux dans la famille. J'ai rejoint mon confrère qui a parlé d'une forte sensibilisation
oui.
qui doit voir le jour au sein de la société congolaise où on doit essayer de vulgariser la loi sur le code de la famille. On doit essayer de donner les rôles que doit jouer chacun dans cette succession.
Voilà, merci.
Voilà un peu comment je pouvais percevoir les choses.
Merci beaucoup, Maître Trichon. Vous êtes à Kisangani, vous avez rejoint les autres. Hein. Le grand problème aujourd'hui, c'est la culture testamentaire. Vous l'avez dit, qui n'existe pas tellement dans notre société. Beaucoup de gens ne pensent pas à rédiger les testaments. Il y a beaucoup de raisons. Il y en a qui ont peur qu'on peut profiter pour me tuer. Ça peut être aussi une occasion pour les membres des familles, quand les gens vont apprendre que non, lui, il a déjà rédigé son testament, de précipiter ta mort, mais au-delà de tout, il faudrait plus vulgariser les textes juridiques pour éviter qu'on puisse avoir cette rupture de la cohésion au niveau de la famille qui résulte souvent de ces conflits liés à l'héritage. Merci beaucoup, Maître Christian. Nous avons Fidèle qui nous appelle à Bruxelles, en Belgique. Bonjour, monsieur.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous mes confrères et à tous nos concitoyens qui nous suivent à travers le monde.
Et vous êtes avocat congolais, vous travaillez en Belgique. Voilà un peu comment cette question arrive des fois à diviser des familles ici dans notre société. Partant de l'expérience de là où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour faire face à ces problèmes de conflits liés à l'héritage?
Merci beaucoup, Pierrot. Je suis avocat au barreau de Bruxelles et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe.
Mm-hmm.
Donc, j'ai une vision double.
Oui.
Parce que, à la fois, j'observe ce qui se passe sur le terrain ici et j'ai des dossiers aussi au Congo. Et, de prime abord, comme mes confrères l'ont relevé, nous sommes là, Pierrot, en face d'un problème qui, d'un côté, demande le respect de la loi,
mm-hmm.
le code de la famille. De l'autre côté, le poids culturel, la tradition, entre d'une part les gens qui estiment que du point de vue coutumier, traditionnel, ils auraient des droits, alors que, comme mes estimés confrères l'ont souligné, le code de la famille ne prévoit pas ces gens-là dans les catégories des personnes qui sont susceptibles d'hériter des biens du Dekouyous. Pour illustrer ce que je dis, je vais prendre un cas concret. Ici en Belgique, à Bruxelles, je suis consulté par les enfants légitimes d'un lit, d'un premier lit. Le père est décédé ici à Bruxelles, a laissé des biens ici en Belgique,
mm-hmm.
mais aussi au Congo, à Kinshasa et dans trois autres provinces de la République.
Mm-hmm.
De son vivant, il s'était marié deux fois. La première épouse étant décédée, il s'est donc marié une deuxième fois. Mais la première fois, il avait choisi un autre régime matrimonial, et la deuxième fois, il a aussi pris un autre régime matrimonial.
Mmh.
En même temps, de son vivant, outre les deux épouses qu'il a eues, il avait aussi ce que chez nous on appelle les bureaux.
Oui.
Les maîtresses. Et avec ses enfants, avec ces maîtresses-là, il avait aussi fait des enfants qu'il a reconnus de son vivant. Mmh. De manière telle qu'aujourd'hui, il y a 22 enfants
mmh.
qu'il a reconnus, dont les enfants légitimes. Et alors, où le dossier devient intéressant parce que je suis bloqué. Et je suis bloqué, pourquoi? Parce que, alors que mes clients sont du premier lit, donc des enfants légitimes, du premier mariage, sont des gens qui ont des diplômes, et que, d'après ce que le code de la famille prévoit, si nous allons en justice, comme le conseil de Kisangani l'a relevé, et qu'on applique le droit écrit, le code de la famille, ils auront bien de cause parce qu'ils vont avoir les trois quarts de l'héritage.
Oui.
Mais mes clients me disent quoi? Maître, ne le faites pas. On est bloqué parce que ils me disent que si nous allons devant les cours des tribunaux, ils vont avoir des répercussions d'ordre mystique.
Exact.
Donc, si vous voyez bien, c'est le poids culturel qui pèse là. Et nous, en tant que praticiens du droit, on n'a pas mandat d'aller outre la volonté de nos clients. Alors, j'en vais aux solutions.
Oui.
La solution, c'est quoi? C'est comme mes confrères l'ont souligné. Je pense que il y a un problème de dichotomie entre d'un côté le droit écrit, le code de la famille, et le droit coutumier. Mais un monsieur, une dame qui, toute sa vie, a travaillé durement pour acquérir des biens. Je pense que même après son décès, il a le droit de disposer de ces biens-là. Si le monsieur prévenant et qu'il établit un testament, on suivra la volonté, pour autant qu'il y ait un testament. Mais ici, dans le cas que j'épinglais, il n'y a pas de testament. On est face à une succession ab intestate, il n'y a pas de testament, mais je pense que il faut sensibiliser, il faut expliquer et donner la primauté au droit écrit, parce qu'un monsieur qui a travaillé comme ça, eh bien, c'est normal que ses enfants puissent tirer d'abord profit de ces biens, de privilégier les héritiers de la première catégorie, et ainsi de suite.
Merci.
Donc, il faut vraiment sensibiliser, il faut vraiment vulgariser et donner la priorité au droit écrit.
Merci.
Voilà, Pierrot, ma petite contribution à ce débat de ce jour.
Merci beaucoup, Maître Fidèle, de nous avoir appelé de Bruxelles. Et Massamba et Tabounia, Alphonse Arou, gardez la ligne, nous allons revenir à vous le temps que notre invité puisse réagir. Nous avons aussi reçu beaucoup de réactions. Ce sujet aussi a provoqué beaucoup de réactions sur Internet, beaucoup de messages sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On va essayer de lire rapidement quelques-uns. Nous avons John Kabeya qui est en Bougemaï, qui dit ceci. Lui pense qu'il faut respecter l'ordre établi dans chaque catégorie par la loi. Justin Gakuiraki de Boutembo il s'interroge si ce problème qui a trait à l'héritage ne peut pas être régularisé à l'amiable plutôt que se présenter devant les cours et tribunaux quand ça se pose au niveau de la famille. Franklin Junior Mbombo qui est à Chikapa dit ceci au Cassa Occidental. Il pense que ce problème doit être réglé dans la famille tout en respectant les lois établies par l'État, sinon le testament ne comptera pas car aujourd'hui beaucoup ne laissent ni testament ni aucun autre document. Ils pensent que tout doit être résolu en famille et à l'amiable. Fils Kadjata qui est aussi à Kanangali, c'est ici. La question est très capitale du fait qu'en RDC, tout cela est mal vu. Il y a des gens qui ont développé des mauvaises habitudes qui pensent. Mais il pense pour lui qu'il serait mieux d'avoir un avocat au niveau de chaque famille pour orienter le membre de la famille. Etienne Ntumba Kabuya à Chikapa dit ceci, la loi est au-dessus de tout. Pour moi, il serait mieux de respecter ce que dit la loi. Et Kevin Kasangana qui est à Johannesburg en Afrique du Sud dit ceci, la question d'héritage semble être un grand problème chez nous comme ailleurs. Un bon plan serait qu'on approuve par écrit tant par l'autorité civile que par le membre de la famille pour déterminer à qui on doit léguer quoi. La reconnaissance de l'existence de tout et par-dessus tout en premier pas. En outre, la mise en considération des membres les plus proches du défunt serait peut-être une deuxième proposition. Merci beaucoup aux uns et aux autres pour le message. Comme j'ai dit, nous avons reçu beaucoup de messages sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Je rappelle encore que nous nous penchons sur les cas des conflits liés à l'héritage dans la société congolaise, ce qui doit être fait pour résoudre tout cela. Et nous en parlons avec Maître Omar Kigalou, qui est juriste et conseiller juridique au sein de l'ONG Justice pour tous.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Maître Omar Kigalou, vous avez suivi nos auditeurs. Hein. Il y a trois avocats qui sont aussi intervenus dans cette émission. Il se dégage un problème. D'abord, c'est la culture testamentaire qui n'existe pas dans notre société. C'est là que beaucoup de problèmes se posent. Et quand bien même il y aurait le testament, mais il y a aussi cette conception culturelle autour de l'héritage, les relations entre le défunt et les membres de sa famille. Plus propose la sensibilisation et la vulgarisation du code de la famille. Quel est votre point de vue par rapport à ces qui a été avancé par nos auditeurs.
Merci beaucoup, Pierrot, pour cette parole. Je remercie et je félicite tous les intervenants qui, dans la majorité, sont des juristes. Alors, je vais commencer par Maître Adrien. Je tiens encore à le féliciter pour ses interventions sur la radio CAPI. Il a parlé du trois quarts qui doit être réservé aux autorités de la première catégorie. Mmh. Oui, c'est ce que prévoit l'article 759 du Code de la famille, testament ou pas. Les héritiers de la première catégorie ont droit aux trois quarts de l'héritage laissé. Nous n'avons pas, peut-être pas pu le dire, faute du temps. Alors, il a soulevé un autre problème très important, à disant qu'il arrive que les décoyous ou les défunts créent eux-mêmes des problèmes en rédigeant très mal de testament. Alors, nous l'avons dit, avant de rédiger un testament, il faudrait consulter un juriste, parce qu'il y a des mentions, il y a des conditions qu'il faudra respecter pour faire un testament. Le testament peut être authentique, c'est-à-dire rédigé par un officier d'état civil. Il peut aussi être holographe, rédigé par la personne lui-même. Alors, il parle de père et mère souvent qui créent des problèmes. Oui, il parle aussi des enfants qui sont ignorés, adoptés. Alors, nous l'avons dit, Maître Adrien, testament ou pas, tous les enfants ont droit à l'héritage. Il peut arriver que le père se fâche, ou de sa façon sentimentale, ignore d'autres enfants. Alors la loi donne tellement d'importance aux enfants, de façon que même si le défunt de sa mauvaise foi arrive à ignorer leurs droits, la loi les reconnaît comme tels. Donc de ce côté-là, les problèmes ne se posent pas. Des deux, M. Franck de Vienne a soulevé un problème très important pour dire que chaque société a sa culture. Le problème que nous avons, Pierrot, dans notre pays, c'est que nous voulons plus copier les lois occidentales et ces lois ne tiennent pas compte de nos réalités congolaises.
Culturelles, oui.
Voilà. Aujourd'hui, le code de la famille, donc de 87, est, n'est-ce pas, d'inspiration belge. Alors, l'amender serait une nécessité dans la mesure où il faudra l'adapter aux réalités congolaises. Il a posé la question de savoir qui a plus de droits. Nous l'avons dit, les héritiers de la première catégorie et qui ont droit aux trois quarts d'héritage, ce sont les enfants. Nés dans les mariages, nés hors mariage, ainsi que c'est adopté. Il a soulevé les aspects sociologiques. Oui, c'est très important, comme nous l'avait dit. Alors, nous avons même dit qu'il est important d'arranger à l'amiable pour sauvegarder la cohésion et la paix au sein de la famille.
Ce qui a été évoqué d'ailleurs par, je crois bien, c'est Maître Christian. Oui, il est revenu sur la cohésion au niveau de la famille, oui.
Oui, oui. Donc, Maître Christian l'a aussi soulevé pour dire que le plus important n'est pas d'aller dans un procès. Le plus important, au nom de la paix sociale, au sein de la famille et de la cohésion, il serait mieux de procéder à l'arrangement à l'amiable. Nous l'avons dit au début que nos ancêtres ne se rendaient pas aux tribunaux. Pourtant, la justice existait. C'est pour dire que les problèmes se traitent plus lorsqu'on les traite à l'amiable que devant le juge où, après les procès, il y a des conflits qui naissent davantage. Il a parlé de l'irrégularité du testament. Oui, la loi dit que toute personne qui conteste un testament doit en prouver l'irrégularité. Parce qu'il peut arriver qu'un des héritiers fasse un testament que le décoyus n'a pas fait. Alors, c'est à vous qui soulevait l'irrégularité de prouver que tel testament est irrégulier. Alors, il a parlé de la cohésion familiale, nous l'avons déjà dit, et nous l'illustrons par cet adage qui dit « mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès ». C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème d'héritage qui se pose, nous conseillons souvent de se mettre autour d'une table, de les traiter à l'amiable, de reconnaître tous ceux qui ont concouru au ménage du décoyus ou du défunt, au lieu d'aller au procès, ce qui est dans une voie légale, mais ce serait bien d'arranger à l'amiable. Maître Fidèle de Bruxelles, nous le respectons et nous le remercions beaucoup pour son point de vue. Il a parlé d'une vision double, c'est très important. Il a dit d'une part, on doit respecter la loi. Oui, c'est la première démarche, M. Pirou. Nous sommes un état de droit et l'état de droit se caractérise par le respect scrupuleux des textes par tout citoyen de la société. Mais là, soulever un poids des poids culturels, c'est très important. Alors, nous l'avons dit, lorsque nous répondions à M. Franck que la loi doit refléter l'idéologie de la vie en société. La loi doit refléter les réalités sociales. Alors, moi je pense qu'il est aujourd'hui important d'adapter les codes famille par rapport à nos réalités sociales. On a des enfants qui sont chassés, des femmes qui sont chassées, des enfants non enregistrés. Oui, le poids culturel qu'avance M. Fidèle est très important dans la mesure où on peut aller à la justice, on peut donner raison ou tort. Il y a aussi des erreurs judiciaires, mais le plus important serait d'arranger à l'amiral. Il a soulevé un cas qui m'a beaucoup touché, le cas de son client qui s'est marié deux fois. Je voudrais ici soulever, M. Pirot, qu'en droit congolais, il est interdit d'enregistrer deux mariages à la fois. D'ailleurs, l'officier d'état civil, lorsque vous vous dirigez à son bureau et que vous voulez enregistrer un mariage, il doit d'abord vérifier si vous avez déjà enregistré un mariage. Et s'il le remarque et il le fait, il sera poursuivi pour bigamie. Il est interdit à toute personne en RDC de célébrer un mariage deux fois. Donc c'est un cas de bigamie que son client n'est
pas... Mais s'il arrive par exemple que le monsieur s'est marié par exemple ici à Kinshasa, il s'est séparé de cette femme et puis il est encore allé se marier en Belgique, parce que le problème qu'il a soulevé, c'est que le monsieur a contracté un premier mariage, il a choisi un régime matrimonial et il est revenu encore après, il a contracté un deuxième mariage. C'est là, supposons par exemple qu'il est divorcé et après il a contracté un deuxième mariage. Est-ce que cette femme... C'est ce premier mariage, les enfants de cet homme et cette femme aussi ont droit au niveau de l'héritage. Voilà un peu, si on peut expliquer, deux mariages contractés, mais avec deux régimes matrimoniaux différents.
Merci beaucoup, Pierre Lamégie. Ceci me pousse à répondre par rapport à la preuve du mariage. En droit congolais, conformément au code de la famille, c'est l'article 436 qui dit « La preuve du mariage s'est faite ordinairement par la production de l'acte de mariage ou du livret de ménage. » Ça veut simplement dire que le seul document qu'on doit exhiber lorsqu'on on soulève la qualité du marié ou de la mariée, c'est l'acte de mariage. Et l'article 438 dit « À défaut de l'acte de l'état civil, le mariage peut être prouvé par la possession d'état d'époux. » C'est-à-dire, l'on doit interroger les gens du quartier ou de la communauté qui vous ont vu vous comporter comme époux. Là, c'est au niveau de la femme. Mais au niveau des enfants, la doctrine a largement avancé. Même s'il n'y a pas un acte de naissance, l'enfant a tout autre moyen d'éprouver que tel est mon père. On appelle ça la recherche en paternité. Par exemple, de façon principielle, le seul acte qui déclare que l'enfant est l'enfant de tel et a droit à l'héritage, c'est l'acte de naissance. Mais lorsque l'acte de naissance n'existe pas, les enfants ne peuvent pas se décourager, parce que les codes de la famille leur donnent beaucoup d'autres opportunités. Même une simple photo que vous avez avec votre père peut prouver que vous avez été son enfant. Même une simple lettre que votre père vous écrivait peut prouver. Cela avait comme but de protéger, n'est-ce pas, les enfants qui constituent l'avenir de la nation. Donc par rapport aux enfants, je dirais à Maître Fidèle, les problèmes ne se posent pas, parce que l'enfant n'a jamais demandé aux gens de venir au monde. Une fois né, il doit prouver, c'est à l'enfant de prouver que tel est mon père. Voilà, de façon ramassée.
De façon ramassée, toutes les préoccupations des auditeurs. Nous avons aussi quelques autres messages avant d'écouter Elie qui est à Likasi, Massamba qui est à Bounia et Alphonse qui est à Arou. Il y a notre ami Welcome Moutou qui dit ceci: c'est un problème d'organisation de chaque famille, et surtout les auteurs de ces conflits sont souvent des magistrats qui cherchent aussi à avoir des pourcentages. Là, il y a un ami qui a dit, et d'ailleurs l'État aussi gagne indirectement à travers l'héritage. Christian Mouika dit ceci: ces problèmes arrivent souvent quand les héritiers mettent leur espoir dans les biens de leurs parents. Ils pensent que les biens achetés par leurs parents leur appartiennent d'office. Alors, au cas où ils ne se retrouvent pas dans le partage, ils créent beaucoup de désordres. Joseph Apollo à Baraka au sud Kivu: que la justice soit juste sévère en cette matière, en punissant les coupables. Et si seulement si cela est attesté et qu'il y a de testaments laissés, il faut respecter la dernière volonté de mort, surtout lorsqu'on fait disparaître les testaments laissés avant que la personne puisse mourir. C'est au cas où quelqu'un est très gravement malade, il y a des gens qui s'arrangent au sein de la famille pour faire disparaître le traitement. Ali Kaboué, qui est à Kalemi, dit ceci: l'héritage doit être respecté, sinon l'État congolais a les droits d'intervenir, mais aussi de... Et il faudrait que tout cela soit établi clairement au niveau de la loi. Kassamba est à Bounia, Alphonse à Arou en province orientale, Elie Alikassi, on va vous accorder la parole pour cette deuxième partie de l'émission.
Parole aux auditeurs.
Kassamba, vous êtes à Bounia en province orientale, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Mégie. Bonjour, maître Omar. Bonjour, les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres. Nous dégageons les pistes des solutions pour faire face aux problèmes de conflits liés à l'héritage. Votre contribution.
Vraiment, monsieur Pierrot et la Mégie, on ne le dira jamais assez. Toutes nos lois souvent sont calquées sur les lois occidentales.
Mmh.
Or, en ce qui concerne nous, les Africains, l'enfant est né souvent dans une grande famille, la famille élargie. Les problèmes de famille nucléaire chez nous en Afrique ne se posent pas comme en Europe. Ainsi donc, l'enfant, quand il grandit, il est le fruit d'une société et il est le fruit d'une famille. Mais c'est le même cas qui se pose quand il y a l'héritage. L'héritage, quand un enfant du village de la famille gagne quelque chose, c'est pour toute la famille.
Mm-hmm.
La loi et le code de famille de 1987, certainement, il a été établi, il a été calqué sur le code de famille européen. Surtout en ce qui concerne l'héritage. Ici, on parle des parents de première, des enfants de première catégorie, parents de deuxième, troisième. Chez nous, les Africains, vous voyez, par exemple, un oncle paternel, chez nous, nous l'appelons papa. On l'appelle jamais oncle paternel.
Mm-hmm.
Donc, chez nous, le sens de la famille est différent que dans les pays occidentaux. Et puis, il y a aussi le problème socio-culturel, la pesanteur socio-culturelle. Quelqu'un, quand vous écrivez déjà, vous établissez votre testament, alors les gens commencent à s'inquiéter. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on commence à fermer des commentaires.
Mm-hmm.
Et peut-être, il a constaté qu'il est atteint de sida et qu'il va mourir. Ça commence à inquiéter la famille. Tout ça, c'est très important. Il faut en tenir compte.
Mm.
Et je reviens encore à ce code de famille de 1987. Par exemple, en 1987, on avait prévu qu'une fille est majeure à l'âge de 14 ans. Mais après, nous sommes partis, nous associés, nous sommes allés à l'arsenal juridique international pour l'âge de 18 ans, et ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ça crée beaucoup de problèmes. Déjà, une fille à l'âge de 15 ans, quand il rencontre un homme, ça devient un viol, ça devient un viol et autre chose.
Mm-hmm.
On interdit le mariage. Or, chez nous, déjà à 14, 15 ans, la fille est mature. Ça, c'est notre sujet. Mais je voudrais revenir à ce qui concerne l'héritage. Il faut qu'on tienne compte de ce qu'est la société chez nous en Afrique,
oui.
Et au lieu de tenir compte de ce qu'est la société en Occident.
Mmh.
L'enfant ouais. est le fruit de la communauté et ce qu'il possède, c'est pour la communauté.
Mmh.
Chez nous, tout, on n'est pas. Souvent, on n'emploie jamais mon, on n'emploie notre. Quand je voilà. construis une maison, c'est notre maison. Et ce n'est pas ma maison, mais en Europe, c'est ma maison, puisque tout. C'est basé sur la famille nucléaire.
Mmh.
Et ce qui est différent avec nous, voilà.
Merci, merci beaucoup.
Donc on revoit ces lois-là.
Mmh.
On commence à revoir quelque chose à l'adapter, comme l'a dit Maître, à nos réalités socio-culturelles.
Merci. Merci beaucoup, Kassamba, pour cette proposition. Vous avez insisté pour dire qu'aujourd'hui, dans notre société, quand quelqu'un possède les biens, en principe, il ne dit pas que ce sont mes biens, ce sont nos biens. Cela veut dire que l'enfant appartient à la communauté. S'il achète une voiture, c'est une voiture de la communauté. Il faut revoir les codes de la famille en tenant compte de ces sociaux, de ces contextes sociaux culturels. Merci beaucoup. Alphonse, vous êtes à Arou, en province orientale. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à notre invité qui est Omar Kigalo, qui est un des grands intervenants de Parole aux auditeurs. Je vous signale Pierrot que je suis aujourd'hui au centre de Ngo-Dingo, qui se trouve à plus ou moins une trentaine de kilomètres à l'ouest de l'Ouganda et au nord de Sud-Soudan, mais aussi au nord du territoire d'Arou à 81 kilomètres de là. Je voudrais commencer par une petite préoccupation. Je n'ai pas la voix de JR. Je voudrais savoir s'il est où il est en congé, où est-il.
Exact, Alphonse, il est en congé, il sera là d'ici la semaine prochaine.
Ah oui, oui. Ok, merci beaucoup, Pierrot. Donc, chez nous ici, réellement, le partage des biens après le découp pose énormément de problèmes, comme l'ont souligné beaucoup d'auditeurs qui m'ont précédé. Il y a, par exemple, les problèmes de mauvais sort. Quand vous refusez, donc, les enfants qui sont les héritiers, quand vous prononcez, vous demandez, vous réclamez vos droits, on peut vous jeter des mauvais sorts. Il y a des bagarres, il y a des disputes sur les biens communs, comme par exemple les habits, les véhicules, les décousses, hein, les produits des champs, les décousses. Donc, chez nous ici, on suppose que tous ces biens-là appartiennent aux tantes, aux oncles, voire les grands-parents, selon la coutume d'ici. Alors, dans les temps, chez nous, c'est un témoignage, hein. Donc, le deuil s'étendait quand il y avait le cas de mort, le deuil s'étendait sur une période de 2 à 3 mois. Et pendant tout ce temps-là, Pierrot, ce sont les chèvres, les vaches, les poules, les produits agricoles qui en souffrent sérieusement. On peut dévaster votre champ, on vous saccage. Alors tout cela, ce sont les tantes, les oncles et les autres qui font ça. Alors donc, pour ne pas prendre assez de temps et laisser la parole à d'autres qui vont appeler, je voudrais dire que pour éradiquer ce fléau, je propose, comme ont dit certains, une très forte sensibilisation, mais aussi une très forte conscientisation de la population, surtout qui sont en campagne, parce que c'est là où se trouve un grand nombre d'illettrés. Alors, je voudrais poser deux questions à notre invité de marque, qui est Omar Kigalo. Mm-hmm. Donc, la première question est celle de savoir, il y a un locataire qui est fonctionnaire de l'État. Alors, il reçoit tout de l'État, il n'a pas songé à s'acheter de ceci ou de cela. Alors, après la mort, qu'arrivera-t-il? Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont hériter? Parce que leur papa n'a rien fait. Et la deuxième question pour terminer, donc je voudrais savoir, est-ce qu'un célibataire, parce qu'il y a des gens qui acceptent la vie du célibat, mais des fois, il se débrouille bien, il devient le bitchin. Un célibataire, est-ce qu'il peut faire vraiment un testament? Et s'il le fait, comment ça peut se présenter exactement? Que l'invité me donne assez de détails là-dessus.
Merci beaucoup, Alphonse. Vous avez insisté sur la sensibilisation et la conscientisation, surtout en milieu rural, là où beaucoup de gens ignorent tout ce qui touche au texte juridique par rapport à l'héritage. Mais vous avez posé la question à l'invité de savoir un locataire, quelqu'un qui loue, qui habite la maison de l'État, il a tout, les livres, tous les biens appartiennent à l'État, lui n'est là que pour les utiliser, il n'a pas eu le temps de se procurer ses biens. Qu'est-ce qu'il va léguer à ses enfants s'il meurt alors que tout ce qu'il utilisait appartenait à l'État? Et si un célibataire peut aussi rédiger un testament? Merci beaucoup. Elie, vous êtes à Likassi, au Katanga. Bonjour.
Bonjour, Pierre-Oyola.
Nous vous écoutons, Elie.
Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord préciser qu'on m'appelle Elie Kouyana. Ça, je comprends très bien à ma peau de nationalité.
Oui.
Je voudrais aussi signaler que la question de la succession ou du partage de la succession est très très importante. Mais il faut que nous sachions tous que c'est une réalité sociologiquement africaine et que nous essayons à résoudre à la manière occidentale ou sur base d'une civilisation occidentale. Il est vrai que notre idée, il en a déjà su. Si nous pouvons faire une analyse un peu objective, nous allons comprendre que avant la colonisation ou avant l'instauration de ce système juridique européen, il y avait moins de problèmes familiaux que maintenant que nous sommes sous un régime occidental. Et je voudrais aussi dire en même temps, comme il a souligné, que pour décrire des sociétés, notre société africaine, certains ethnologues et sociologues ont inventé les concepts de solidarité africaine. Mais Franck de Vienne a dit que non, il ne comprend pas sur base de quel droit un frère peut aller réclamer la propriété de son frère qui est décédé. Mais je dois rappeler à Franck, je ne dois pas oublier aussi, que pour étudier, il y a eu des membres de famille qui ont cotisé. Il y a eu des filles qui ont été données en mariage pour qu'ils puissent étudier. Ou même un homme en Afrique, ici chez nous au Congo, pour se marier,
on a pu donner quelqu'un d'autre en mariage, on a donné à d'autres, et puis on a fait tout ça, ça entre dans la culture. Et nous venons de très loin, les textes juridiques sont élaborés en connaissance de l'histoire, en prenant en compte des réalités historiques. Vous les oubliez, c'est que vous avez engendré une situation difficilement gérable. Et et puis, l'autre conséquence que nous vivons aujourd'hui par rapport à la situation, c'est cette invention de certains concepts qui n'ont jamais existé dans la culture africaine. Entre autres, quand les Belges sont venus, ils nous ont imposé l'abolition du mariage polygamique et à cela, ils ont effacé certains concepts comme les enfants illégitimes. C'est-à-dire les enfants nés hors mariage, il faut que ces enfants-là soient affiliés du vivant de leur père. Et seulement avec l'accord de la femme de leur père, de la femme légitime. Donc pour moi, je pense que pour résoudre ces problèmes, une matière réellement, totalement civile et qui relève du droit coutumier, on doit revoir le code de la famille, que cette matière soit liée à la coutume. Rappelez-vous que toujours en matière, par exemple, l'adultère est défini par la loi pénale, mais la réparation de celui-ci est liée à la famille. Donc, parce que nous sommes dans une société congolaise qui est caractérisée par une multiplicité de cultures. Donc, chaque culture, chaque coutume a sa façon de gérer. On ne doit pas généraliser cette situation.
Merci.
On ne doit pas généraliser.
Voilà, merci beaucoup.
En réussissant la loi, comme notre éditeur l'a souligné, parce que c'est une interdit. On doit instaurer la polygamie comme forme de mariage légalement reconnue par des sociétés africaines et on doit aussi, n'est-ce pas, léguer à chaque culture la façon, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes de discussion. Voilà tout ce que je pouvais donner comme apport par rapport à ce débat. Sinon, nous avons toujours des problèmes en problème tant que nous allons toujours référer à ce système européen. Nous a fait vraiment beaucoup de mal.
Merci beaucoup, Elie. Vous pensez qu'il faut résoudre, léguer, revoir les codes de la famille et léguer la question de la succession à la coutume parce que l'enfant, quand il étudie, quand il travaille, quand il se marie, il y a autant de personnes qui interviennent. On ne peut pas dire aujourd'hui que personne n'a droit d'hériter les biens laissés par un défunt. Il faut remettre cela, bien sûr, à la gestion du droit coutumier. On va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission. Avant de revenir encore dans ce studio, Jean, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour ses parents, les auditeurs.
On vous écoute aussi en une minute et demie votre contribution.
Okay, merci beaucoup. Je voulais commencer par une question. Parce que nous avons remarqué que parmi tous les intervenants, il y a le problème de testament qu'on a plus répété. Maintenant, je voulais poser une question un peu banale, mais à mon sens, c'est capital. À quel âge, plus ou moins, peut-on rédiger un testament? Parce que nous constatons qu'il y a parfois quelqu'un meurt comme ça suite à un accident. Ou il a commencé à travailler, il a peut-être acheté une maison ou deux, peut-être, et il ne s'est pas préparé pour rédiger, peut-être. Et puis, la victime, c'est la femme et les enfants. Alors, à quel âge, plus ou moins, peut-on penser à rédiger un testament?
Oui.
Alors, nous avons un autre problème de texte que la loi de code de la famille, qui date déjà de 26 ans, s'il vous plaît, c'est trop. Si on pouvait soumettre les juristes qui sont là au Parlement de réviser cette loi, ça sera très important parce que le monde évolue. On ne peut pas quand même continuer à utiliser une loi comme ça qui date de plus ou moins 26 ans, alors que nous avons des juristes, nous avons un parlement, ainsi de suite.
Merci.
Et enfin, peut-être pour éviter certainement ces conflits ici, il faut apprendre à faire ceci. Dès que vous êtes marié et vous avez des enfants, vous avez acheté un quelconque bien, vous devez apprendre à surtout le cas de la parcelle, de parcelles, parce que c'est que nous vivons plus à Kinshasa. Quand vous avez une parcelle, vous remarquez que le mari met seulement son nom. Ou bien il met le nom d'un enfant seulement. Non. Pourtant, la situation parcellaire, on doit mettre le nom du mari d'abord lui-même qui a acheté, sa femme, et puis ses enfants. Comme ça, s'il ne sera pas la personne décès, on peut recourir à cela pour que on puisse, disons, que chacun puisse hériter de ce qu'il doit. Et le problème de la religion. Les femmes sont souvent victimes. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent même pas réclamer leurs droits. La vulgarisation de ces droits, c'est très important.
Merci beaucoup.
La religion, c'est quoi? On dit, oh, bon, seulement Dieu qui va le diriger, qu'il prenne ses biens, et puis, suite à cette faiblesse-là, on laisse et la famille fait quoi? En profite.
Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean. On va écouter le dernier auditeur, Ernest, qui est à Matadi, en une minute, le temps de réagir, parce qu'il y a beaucoup de réactions, mais aussi la conclusion de notre invité. Ernest, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute aussi en une minute. Comment on peut résoudre ce problème?
Bon, en une minute, je peux dire que le conflit relève du régime de bien que le couple choisisse.
Mm-hmm.
Mais je crois, moi, je propose, pour résoudre ce problème qu'un autorité, quelqu'un a dit, lorsqu'on se marie, il y a des compétitions, lorsqu'on étudie, il y a des compétitions. C'est toute la famille qui contribue pour la vie de la jeune fille ou des jeunes hommes. Et là qu'on est ensemble, lorsqu'on a des biens, je crois, pendant qu'on est vivant, il serait intéressant que dans les relations avec la famille, que le mari puisse dire, en tout cas des mots vivants, ces biens ici appartiennent à mes enfants. Les biens là appartiennent à ma famille. Comme ça, et la famille, et la famille, et la famille, toutes sont au courant que de son vivant, voilà ce que je disais. Pour que tout le monde ait cette information. Parce que lorsqu'il y a possibilité de dévier le testament, on ne saura pas dévier tout ce que le vivant, le défunt, disait de son vivant à ses enfants et aux autres membres de famille. Au besoin, à ses amis.
Mm-hmm.
Moi, j'ai déjà divisé mes biens, ça c'est pour mes enfants, ça c'est pour ma famille. Je crois, à ce moment, il y aurait moins de problèmes et la justice ne viendra que pour constater les cadres et les conseillers même.
Merci.
Et respecter la parole du défunt.
Merci.
Voilà, c'est la première solution pour moi.
Voilà, merci beaucoup, Ernest. Il faudrait aussi, au-delà du testament, les déclarations verbales. On revient à vous, Maître Omar Kigalou, parce qu'on va terminer cette émission. Il y a quelques préoccupations et aussi une conclusion à tirer. Beaucoup d'hommes sont revenus, on a presque dit la même chose, on est revenu sur la sensibilisation et la révision du code de la famille. Il y a notre ami Alphonse qui a demandé si quelqu'un qui n'a que les biens de l'État, qui l'utilise, peut aussi avoir un héritage pour ses enfants, un célibataire, peut-il rédiger un testament, et à quel âge, est-ce qu'il y a-t-il un âge requis pour l'élaboration ou bien pour rédiger un testament. Voilà un peu ses préoccupations et plus rapidement aussi, on va tirer la conclusion.
Merci beaucoup Pierrot pour votre question. Je dirais à Monsieur Jean qu'un testament est un acte juridique et en droit congolais ne peut poser un acte juridique qu'une personne capable. Et la capacité juridique en droit, c'est-à-dire la capacité d'exercer un acte, est fixée à 18 ans.
Mmh.
Il faudra avoir au moins 18 ans accomplis.
C'est-à-dire qu'on peut rédiger le testament à n'importe quel âge.
Oui, à n'importe quel âge.
Parce que dans l'imaginaire, les gens croient que le testament, on l'élabore quand on est déjà vieux, fatigué, qu'on est près de la mort.
Non, non. Il faudra le faire à 18 ans au moins, parce que la capacité d'exercer un acte juridique en droit congolais commence à 18 ans.
Mm-hmm.
Donc, les mineurs ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont incapables, mais toute personne âgée de 18 ans disposant des facultés mentales propres peut déjà le faire.
Mm-hmm.
Par rapport à M. Alphonse, il doit savoir que selon l'article 756 du Code de la famille, l'héritage est composé des droits, c'est-à-dire de biens d'un des cousins ou du défunt. Donc on ne peut léguer que ce qu'on a.
Mm-hmm.
Et lorsqu'on meurt sans rien laisser, les héritiers n'auront droit à rien. Mais lorsque vous mourrez et vous laissez un bien minime, seuls les héritiers de la première catégorie en auront droit.
Alors, et quand on parle des biens minimes, ça s'élève à quoi?
Il peut arriver que vous mouriez, vous ne laissez qu'une voiture, vous ne laissez qu'une maison. Vous ne laissez que des habits.
Et là d'office, c'est pour les héritiers de la première catégorie.
Pour les héritiers de la première catégorie et pour le conjoint survivant.
Mm-hmm.
Alors, les propositions ou les préoccupations des différents.
Et par rapport aux célibataires peuvent.
Merci beaucoup. Il demande si un célibataire peut-il faire un testament. Oui, les testaments ne pas seulement dans l'hypothèse d'une personne mariée qui a des enfants.
Mm-hmm.
Les testaments peut être écrit par tout le monde, parce que toute personne dans la vie a un patrimoine. Le patrimoine est composé des biens que vous avez et des obligations que vous avez. Si vous mourrez même célibataire, vous laissez des biens. Et la loi dit, dès qu'une personne meurt, sa succession s'ouvre. Donc, il a donc droit de faire un testament pour dire à qui reviendront mes biens après ma mort, même un célibataire.
Voilà, et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout ce qui a été dit dans cette émission?
Merci beaucoup, Pierrot et la Mégie. Nous avons compris tous que les causes principales de ces conflits sont l'ignorance de la loi, c'est-à-dire du code de la famille, l'immobilisme des victimes, les enfants ou la femme qui ont été chassés, ils n'arrivent pas à dénoncer, et aussi la mauvaise foi de certains magistrats. Ce sont là les principales causes qui font qu'il y ait des conflits au niveau de la succession. Alors, en titre de conclusion, ce que je peux proposer, c'est qu'en premier lieu, l'État, via le ministère de la Justice, doit vulgariser les codes de la famille. Une loi n'a de sens que si elle est appliquée. De deux, le ministère de l'Enseignement, à mon avis, doit rendre ses cours obligatoires. Les enfants, au niveau de l'Église, au niveau de tous les milieux sociaux, on doit inculquer aux gens de savoir que lorsqu'on est enfant, on a droit à tel, on doit se faire enregistrer, on doit enregistrer son mariage. Et pour finir, Pierrot et la Mégie, sur le plan social, nous demandons au Parlement congolais d'adapter les codes de la famille aux réalités socio-culturelles congolaises. Nous demandons également à la communauté congolaise d'être consciente, de comprendre que la paix sociale vaut plus que tout. Mieux vaut un arrangement amiable, reconnaître les droits de tous, qui est calé, n'est-ce pas, dans un procès qui générera beaucoup de conflits. Donc tout se résume à la prise de conscience et des magistrats qui doivent bien appliquer la loi, et de la famille qui doit être consciente, et des Congolais qui doivent faire un effort de s'informer, et de l'État congolais qui doit aussi institutionnaliser ses cours pour que tout le monde soit en mesure de connaître ses droits.
Merci beaucoup, Maître Omar Kigalo, d'avoir accepté notre invitation et commenté ces sujets avec les auditeurs. Je rappelle que vous êtes juriste et conseiller juridique au sein de l'ONG Justice pour tous et vous êtes militant pour les droits des enfants. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis à travers le pays.
Allô? Mais ils ne répondent pas?
On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine des paroles aux auditeurs. Nous allons faire les points sur la problématique des prises en charge des malades mentaux dans votre milieu avec cette situation au Bas-Congo où 20 cas d'agression de la population a été enregistré par la société civile. Comment les malades mentaux sont-ils pris en charge dans votre milieu? On se retrouve demain vendredi à 11h30, heure de Kinshasa. Merci à Titi Mpoutou, Nadine Foula et Jean-Claude Siala qui nous ont aidé à vous présentez cette émission supervisée par Ben Kabamba. On se retrouve demain. Au revoir.